Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les smartphones et tablettes sont entrés dans la vie de beaucoup d'entre nous il y a une dizaine d'années environ. Mais pour les adolescents, et encore plus pour les jeunes enfants, ces écrans font partie de leur environnement depuis toujours. Lucarne portable, animée, divertissante et omniprésente. Ces objets connectés, s'ils sont attractifs et souvent utiles, occupent de plus en plus de temps dans une journée. Dans certains foyers, c'est une comptine visionnée sur YouTube qui remplace l'histoire du soir. Dans d'autres, c'est un dessin animé téléchargé qui s'est substitué à la lecture d'un album illustré feuilleté sur les genoux de l'un des parents. Remiser aussi parfois les briquettes en plastique ou cubes de bois au profit de casse-tête numérique. Cette irruption dans le quotidien des tout-petits a poussé certains acteurs de santé à s'interroger sur les effets de cette exposition massive aux écrans, sur l'impact de ces bouleversements d'habitude précoces sur les apprentissages, sur d'éventuelles modifications des comportements et des modes de communication. Des interrogations provoquées également par les constats réalisés par les personnels éducatifs, comme par certains parents. Changement chez le jeune enfant, attention, interaction, concentration modifiée. Et face à ce phénomène et à ses conséquences, en particulier chez les moins de 5 ans, le recul est plutôt limité compte tenu de la nouveauté des technologies concernées. L'exposition aux écrans des jeunes enfants, on en parle aujourd'hui avec vous, professeur Daniel Marcelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec le Sénégal, avec le professeur Lamine Fall, chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Fane à Dakar. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Vos témoignages, vos questions, notre page Facebook est à votre disposition et bien sûr, notre numéro de téléphone, le 33 84 22 75 75. N'hésitez pas à nous appeler.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Daniel Marcelli, quand on parle d'exposition précoce des enfants aux écrans, on fait référence à quel âge pour parler de précocité ?
La précocité maintenant, c'est pratiquement dès que l'enfant est capable de prendre un objet dans ses mains, c'est-à-dire quelques mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est parfois même plus tôt, puisqu'il y a quasiment sur YouTube des situations où des enfants sont mis devant des petits écrans au moment où ils sont en train de prendre le sein ou le biberon. Donc, je dirais que c'est extrêmement précoce. Et le problème avec ces écrans qu'on peut emmener partout, ces écrans nomades, les tablettes, les smartphones, c'est que c'est maintenant à tout moment dans la journée. C'est pas seulement à la maison pour manger, parce que pour s'endormir, pour raconter une histoire comme vous venez de le dire, mais c'est aussi dans la salle d'attente, c'est aussi dans la voiture, c'est aussi dans le train, c'est aussi dans les magasins, c'est dans la poussette. Enfin bref, c'est à tout moment. Et l'écran a un effet magique sur le tout petit. Dans les premières années, entre 7-8 mois et 2-3 ans, vous lui mettez un écran devant les yeux et immédiatement, comme je le dis, l'enfant est sage comme une image. Sauf que les enfants ne sont pas normalement des images, ces enfants bougent, et qu'effectivement ils sont attirés par cet objet. Ils sont attirés pour deux raisons principales, et j'en terminerai avec ça. Ils sont attirés parce qu'à cet âge-là, vers l'âge de 1 an, tout ce qui attire les adultes intéresse les enfants. Donc quand ils voient les adultes avec ces écrans, et force est de reconnaître que les jeunes parents sont aussi souvent devant des écrans, eh bien ils s'intéressent à ce qui intéresse les parents. Et ils veulent l'avoir. Et donc il ne faut pas s'étonner que les enfants veulent absolument avoir ces objets qui sont dans les mains d'un parent. Et la deuxième chose, c'est que dès que l'objet est devant leurs yeux, eh bien ça bouge, ça remue, ça gesticule, ça bavasse en permanence. Et les enfants sont très intéressés par les mouvements. Quand vous mettez un mouvement à 20 cm ou 30 centimètres des yeux d'un enfant, l'œil est physiologiquement attiré par ceux qui bougent. Donc évidemment, ils sont scotchés, ils sont captés et plus que ça, ils sont capturés par l'écran avec les conséquences que ça peut avoir.
Le terme d'addiction pourrait justement collé à cette situation, professeur Marcelli ?
C'est un débat extrêmement aigu parce que chez le grand, chez l'adolescent et le grand enfant, la suppression des écrans enfin, ne provoque pas de réaction particulière. Et donc, effectivement, l'idée d'un
syndrome... On va dire quasiment des réactions physiques. Il peut y avoir de la colère contre les parents, mais ça ne s'imite pas...
Voilà, ce qu'on appelle des réactions de manque. Voilà. Et donc, les instances nationales et internationales n'ont pas voulu parler d'addiction pour les adolescents. Mais quand vous regardez des tout-petits, j'entends des enfants d'un an, 18 mois, que vous leur supprimez les écrans, ils ont des crises de désorganisation, des crises de souffrance, qu'on peut appeler des crises de colère si on veut, mais de rage, qui font quand même penser qu'on leur retire quelque chose qui est quasiment devenu indispensable à leur survie. C'est à peu près la même chose quand on retire brutalement, sans lui en donner de raison, le doudou à son enfant. Eh bien, on voit bien là qu'il souffre, qu'il n'est pas content. Et on pourrait dire qu'il y a une forme de dépendance de l'enfant à son doudou, avec une réaction de manque quand on lui retire son doudou. Eh bien, je dirais que les écrans chez le tout petit ont, hélas, trois fois hélas, une fonction à peu près similaire.
Et qu'est-ce qui est en cause, professeur Daniel Marcelli ? C'est l'exposition de ces très jeunes enfants ou la surexposition ? Est-ce qu'il y a un temps qui est exagéré ou est-ce que c'est en général simplement de confier cet objet à un enfant ?
Il y a deux choses. Il y a le temps et la qualité. Le temps, c'est effectivement si on laisse l'enfant pendant une demi-heure, deux heures, une demi-heure, une heure avec cet écran, pendant ce temps-là, l'enfant est capté et capturé et elle n'est plus en interaction avec le monde. Mais il y a au plan qualitatif le fait que l'écran entraîne une désynchronisation avec tout l'entourage, avec le partenaire. Quand vous êtes avec un petit enfant de 6 mois, 8 mois, 1 an et que vous le regardez, que vous lui parlez, vous le regardez, vous souriez, l'enfant vous sourit, vous lui souriez en retour. Il y a ce qu'on appelle une synchronisation interactive. Voilà. Bien évidemment, quand l'enfant regarde l'écran, rien n'est synchronisé. C'est aussi valable pour la parole. Vous parlez à un tout petit, vous dites « are », « ah », il fait des mouvements, vous répétez. Et cette prosodie-là, c'est le lit dans lequel va s'installer le langage. C'est là-dessus que s'appuie l'enfant pour commencer à comprendre un petit peu ce qu'on lui dit, car l'enfant au début ne comprend pas tant les mots qu'il comprend l'émotion et la qualité relationnelle. Et peu à peu, il va comprendre les mots. Tout cela est complètement explosé à travers les écrans où ça ne cesse de gigoter, de bouger et de bavasser en permanence d'une manière totalement désynchronisée. Or, notre cerveau, ce qu'il aime, c'est tenter de comprendre. Notre cerveau est une machine à comprendre. Donc, il ne faut pas s'étonner que les enfants soient littéralement fascinés, prisonniers de ça, parce qu'ils tentent de comprendre. Et à mon avis, ces petits bébés n'y comprennent rien. Ils sont dans un état de sidération quand on les voit. Ils sont totalement captés. En ce sens, c'est très différent de la lecture d'un album, comme vous parliez tout à l'heure. Un album, le parent le lit, l'enfant de temps en temps monte du doigt, l'enfant regarde ailleurs. On a l'impression que d'un seul coup il est distrait. C'est pas vrai. Quand il regarde ailleurs, il est en train de rêver et de penser à ce qu'on lui dit. Le parent récupère l'attention, il dit regarde là, t'as vu la souris, t'as vu le petit oiseau, et il y a une sorte de...
Et une verbalisation en plus.
Voilà, de verbalisation. Et entre le moment où il regarde l'image et le moment où il pense, eh ben ça c'est essentiel. La pensée, elle s'organise quand on ferme un peu les yeux et qu'on réfléchit. C'est ce qu'on appelle l'attention profonde. Si vous regardez les petits-enfants devant des écrans, ils sont captés par la stimulation visuelle et ils ne s'en détachent jamais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre dans leur pensée c'est ce qu'ils sont en train de regarder. Du coup, quand on éteint l'écran, le monde, d'un seul coup, ils sont dans un état d'agitation. Il faudrait peut-être comprendre l'écart qu'il y a entre l'immobilisme et une capacité presque excessive d'attention quand ils sont devant l'écran et une incapacité à fixer leur attention quand ils sont dans le monde réel qui bouge un peu moins et qui est un peu moins agité que le monde des écrans.
Alors, voilà. Surexcitation sensorielle, est-ce que ça entraîne une série de troubles qui ont été déterminés, qui ont été observés, professeur Marcelli ?
Là, remonte au plan international, tous les pays, depuis la Chine, la Roumanie, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, l'Italie, enfin tous les pays commencent à remonter ces informations et il y a effectivement trois grandes séries de troubles chez le tout petit, chez le tout petit. Ces trois séries de troubles, ce sont d'abord des troubles de l'attention, on vient de les décrire et on en a parlé suffisamment. Le deuxième série de troubles, c'est les troubles du langage avec deux choses qui existent, un retard d'apparition du langage ou parfois un langage complètement factice, un peu comme dans les annonces à la, dans les aéroports ou dans les...
Morcelé.
Un langage morcelé, un peu chantant, qui en fait est le langage qu'ils entendent. Et ils répètent ça, ils peuvent vous faire des séries de nombres, voire des mots en anglais, mais complètement désaccordés de la relation. Donc retard de langage, ou langage qu'on appelle nous un peu écolalique, un peu en écho. Et troisième série de troubles, quand ça persiste, des troubles graves de la relation. Parce que l'enfant s'isole devant cet écran et ne supporte plus les relations avec les autres. Il devient agressif, il devient replié sur lui-même, etc. Donc cet ensemble, troubles de l'attention, retard de langage et troubles de la relation, parfois il est complet. Et c'est dans ces cas-là que l'on parle parfois d'état d'allure autistique. J'ai bien dit d'allure autistique. Parfois c'est essentiellement un de ces troubles-là qui est présent.
On va en reparler justement de cette terminologie particulière. Juste avant d'entendre un reportage, cette question, professeur Marcelli, qui donne l'alerte? Est-ce que ce sont les parents en général, ou est-ce que c'est plutôt les acteurs éducatifs?
C'est un mélange un petit peu de tout. C'est les parents, les adultes attentifs au regard des petits enfants. Alors, on a parfois des parents qui s'étonnent de la régression. Je l'ai pas dit, mais quand on met des écrans, quand on commence par exemple à 8-9 mois, on s'aperçoit d'une relative régression. Donc, les parents peuvent s'en inquiéter. Ce sont parfois aussi les grands-parents ou les membres de la famille. Quand on confie l'enfant qui se met à crier parce qu'il a pas son écran, et les grands-parents sont étonnés de cet enfant d'un an qui a des comportements un peu bizarres. Et bien sûr, ce sont les professionnels de la petite enfance, les puéricultrices, les assistantes maternelles, etc., etc. Et puisqu'on parle de cela, il faut aussi, quand on parle de l'exposition aux écrans, bien veiller à tous les lieux où l'enfant vit. Pas seulement à la maison, mais aussi éventuellement dans une garderie, chez la nounou, etc. Et bien prendre en compte tous ces temps-là, compte tenu du fait que l'écran a cette magie de transformer l'enfant en une image, et que c'est parfois bien pratique pour tout le monde.
Et tout de suite, hein, illustration avec ce reportage, rencontre avec Bertrand Mesure. Depuis 20 ans, il est enseignant spécialisé, et il suit des enfants qui sont âgés entre 2 et 6 ans, dans des classes maternelles dans la ville de Trappes, en région parisienne. Son témoignage, recueilli par Raphaël Constant.
Suite aux années 2000, on s'est aperçu que les enfants étaient de plus en plus consommateurs d'écran, que de plus en plus d'enfants, par exemple, avaient une télévision, voire une télévision, un ordinateur dans leur chambre. Et puis, depuis l'arrivée des smartphones et des tablettes, là, l'explosion est très importante, et les enfants ont de plus en plus ce type d'outils à disposition, et ils les consomment avec beaucoup d'assiduité, et parfois malheureusement sans un contrôle très effectif des parents.
Et vous, dans les classes, qu'est-ce que vous avez remarqué sur le changement de comportement que pourraient avoir les enfants ?
Alors, ça porte sur plusieurs éléments. Déjà, il y a une certaine forme d'excitabilité qui est liée à la façon dont fonctionne un écran et au type d'utilisation que les enfants peuvent en faire, c'est-à-dire des jeux parfois très violents qui ont une vocation à exciter le cerveau de l'enfant et qui du coup se retrouvent dans leur comportement quotidien en classe, que ce soit avec leurs camarades ou dans la difficulté à se concentrer sur un objet scolaire ou sur un jeu tout simplement. Difficulté à construire un jeu, difficulté à y rester, difficulté à maîtriser les régulations qui font qu'on peut jouer avec un autre enfant. Tous ces éléments-là sont apparus récemment. Tous les petits-enfants, ils ont affaire avec la frustration, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Or, la tablette, par définition, ne frustre pas l'enfant, puisque le jeu vient définiment autant que de besoin, autant que l'enfant le souhaite. A fortiori, si par exemple il regarde des chaînes comme YouTube, des choses comme ça, la possibilité de fournir est infinie. Donc à aucun moment, l'enfant de lui-même va dire stop. Alors que quand on joue avec un camarade, au bout d'un moment, les limites du jeu sont aussi celles du camarade. Donc, avec les tablettes, ça n'existe pas. Et évidemment, un enfant de cet âge-là n'est pas capable de s'arrêter. Les smartphones en particulier sont un outil, je dirais, qui permet aux parents de s'accommoder avec le fait d'avoir à occuper leur enfant d'une façon relativement simple. Et donc, on s'aperçoit maintenant que dans tous les instants de la vie, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans des transports en commun, que ce soit y compris dans des écoles. Parfois, on voit des mamans arriver avec un bébé dans une poussette et il a déjà le smartphone dans les mains. Donc, en fait, ça a une fonction, je dirais, d'occupation de l'enfant, mais qui est au détriment, bien sûr, de la relation qu'il peut entretenir à son environnement et à ses pères ou à sa mère ou à son père, d'ailleurs.
Et vous, en tant qu'enseignant, quelles possibilités, quelles solutions vous pensez ou vous proposez aux enfants et aux familles à l'école ?
De mon point de vue, il est absolument nécessaire que les enfants apprennent à utiliser ces outils, mais vouloir à tout prix que l'enfant passe systématiquement par ce champ-là, je pense que c'est une très mauvaise chose. Un petit a besoin de courir, de sauter, de grimper, de jouer avec les autres, de bricoler. Si on regarde sur ces 20 dernières années, il y a de moins en moins d'enfants qui vont aller en classe de découverte, qui vont découvrir ce qu'est la montagne, la mer, etc., en sortie scolaire. Et en fait, en termes de développement pour l'enfant, c'est infiniment plus riche que ne peut être la même découverte au travers d'une tablette. Je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de mauvais support d'activité. À partir du moment où il entre dans les registres que j'évoquais, c'est-à-dire le moteur, le sensoriel, le langage, le relationnel, c'est un bon support. Et s'il est accompagné de bienveillance, c'est tout à fait satisfaisant. Aucune tablette ne peut apporter ça.
Constate cet enseignant, un témoignage au micro de Raphaël Constant. On vous retrouve, professeur Daniel Marcelli. Comment les pédopsychiatres prennent-ils en charge ce type de cas, ces tout petits patients qui sont déjà accros aux écrans ?
Avant de répondre directement à cette question, je souligne le fait que cet enseignant dit très exactement ce que j'ai dit tout
Absolument.
À l'heure et que c'est ce que disent tous les professionnels. Mmh. C'est pas uniquement les pédopsychiatres et c'est pas uniquement
les
médecins.
C'est pas alarmiste, c'est un constat
voilà,
du quotidien.
Ça. Voilà, il faut arrêter de dire on alarme la population. Non, il faut entendre les professionnels qui sont au contact de ces enfants. Ce que vient de dire Monsieur Mesure était bon, frappé du coin du bon sens et c'est ses constatations. C'est pas, il n'invente pas ça. Voilà. Donc à partir de ce moment-là,
mais ça veut dire si les gens disent, vous exagérez, pourquoi ils disent ça ?
Parce que
de
ça
la
les
part
dérange.
De parce que chez certains parents, il y a une forme de culpabilité de dire,
je pense.
J'ai pas mis de règles et puis je me retrouve piégé par ces excès.
Un peu. Et puis j'ai suivi les conseils de la société, etc. Et donc, je me trouve piégé. Donc, je pense qu'il y a un mélange de culpabilité et prenons le cas typique, je pense, des enfants autistes. Les enfants autistes, ils sont difficiles, ils ont des crises de frustration, etc. Vous leur donner un écran, ils deviennent calmes et tranquilles. Évidemment que la tentation est de leur donner un écran. Donc, il y a beaucoup d'articles sur l'utilisation des écrans chez les enfants autistes. Et d'un seul coup, on dit aux parents et on dit à la société, attention, les écrans peuvent provoquer des troubles. Alors donc, les parents autistes sont très en colère parce qu'ils disent, enfin, on nous accuse encore, etc., etc. Mais d'abord, c'est pas parce que les écrans calment les enfants autistes que les écrans sont bons pour tous les enfants. Voilà. C'est une sorte de généralisation qui est extrêmement dangereuse. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ben, chez les tout-petits, il y a une tentation simple, c'est dire pas d'écran avant 3 ans. C'est ce qui a été dit par d'autres personnes, par des gens qui s'intéressent particulièrement aux écrans. Moi, je crois que c'est une injonction un peu excessive. D'abord parce que c'est pas possible, parce qu'il y a des écrans qui sont dans les maisons, etc. Et que l'abstinence absolue, je suis pas convaincu que ça soit un message très entendable par la population. En revanche, je pense qu'il faut dire que les écrans, c'est dangereux, d'autant plus dangereux que l'enfant est tout petit, et qu'il faut introduire cet écran de manière très progressive dans sa vie.
On peut dire, par exemple, pas d'écran dans les chambres.
Alors, il y a des lieux, il faut dire pas d'écran dans les chambres, pas d'écran pendant le repas, pas d'écran au moment de s'endormir. Et l'écran avec les tout petits doit toujours être proposé pour des temps limités, on va dire par exemple 10 minutes, mais en présence de l'adulte. Et ce que je prône beaucoup, ce qui est d'ailleurs dit par l'enseignant, ces écrans ne s'éteignent jamais. Et il faudrait effectivement, quand l'enfant est avec son écran le tout petit, au bout de 5 ou 10 minutes, l'écran s'éteint, comme si la batterie était usée, l'écran s'éteint et j'ai envie de dire là, l'adulte reprend la main. C'est-à-dire qu'il demande à l'enfant, raconte-moi ce que t'as vu, dis-moi où t'as vu la souris. Et il se sert un petit peu de ce qui s'est passé sur l'écran comme d'un album pour réintroduire la relation avec l'enfant. Alors tu as vu la souris, où elle était, etc. Et là, on réintroduit le langage et la relation. Et là, l'écran peut devenir une sorte d'instrument qui enrichit, je dirais, le dialogue.
Il redevient un support, mais c'est pas toute l'attraction sur cet objet.
Voilà, il devient un support transitoire et dont le parent peut se servir. J'insiste aussi sur le fait que les parents, tous les parents, dans tous les endroits du monde, doivent savoir qu'ils sont les meilleurs éducateurs pour l'enfant. Un écran n'a jamais éduqué un tout petit. Ce sont les parents qui sont là pour lui apprendre à parler, pour lui apprendre le langage, pour lui apprendre le monde, pour lui rendre le monde compréhensible. Un écran, ça ne rend pas le monde compréhensible aux yeux d'un tout petit.
Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé juste avant de prendre un premier auditeur en ligne, c'est la motricité. Aussi, cet écran ne va pas permettre au tout petit, professeur Daniel Marcelli, d'exercer justement ce contact tactile, ce sens absolument primordial dans la découverte du monde.
Vous avez plus que raison, hélas. Et on voit cette motricité bizarre, puisqu'ils ont une espèce de délicatesse à toucher et à effleurer l'écran avec une fantastique agilité, compétence et agilité. Mais en même temps, ils sont incapables de prendre correctement un cube, de l'empiler, d'encastrer des choses. Il y a dans la motricité d'un enfant s'affronter à la consistance du monde, s'affronter d'abord à la troisième dimension, au volume, etc., au poids. Vous l'effleurez et il vous répond, je dirais, au doigt et à l'œil, c'est le moment de le dire, et vous avez un objet magique comme ça qui donne à l'enfant un sentiment de toute puissance et de tout pouvoir contrôler, mais tout pouvoir contrôler des choses virtuelles, pas le monde. Et quand ce pauvre enfant, on l'assoit et on lui donne des cubes, on lui donne une poupée ou une petite voiture, il est dans un état de désorientation tout à fait dramatique. Du coup, qu'est-ce qu'il demande ? Il redemande l'écran parce que là, il est à la fois mentalement occupé et presque à l'aise pour l'effleurer. C'est en faire un enfant, je dirais, handicapé, un moteur et amputé de la consistance du monde. Voilà, c'est ça qui me paraît. On est entouré d'un monde qui a une certaine consistance et l'être humain doit s'y affronter, doit apprendre à la mobiliser, d'apprendre à la dominer, entre guillemets. Encastrer des cubes, c'est très compliqué. Faire un puzzle, c'est très compliqué. Avoir le doigt qui effleure comme ça et claque, ça s'enclenche, mais il y a une espèce de côté génial et tout puissant et qui effectivement ne donne pas à l'enfant la compréhension du monde réel.
Vous restez avec nous, professeur Daniel Marcelli. Tout de suite, la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et ce premier auditeur, c'est Paul qui est en ligne du Cameroun, de Yaoundé précisément. Bonjour Paul.
Bonjour Caroline. Bonjour docteur.
On vous écoute Paul.
Alors moi j'ai une petite fille de 2 ans. En effet, sa manière qu'elle développe, qu'elle apprend vraiment à manier la tablette et le smartphone me dépasse. Parfois je suis étonné vraiment. Parce que elle réussit parfois à déverrouiller la tablette de sa maman. Et ce qui l'intéresse plus, c'est la galerie photo et vidéo. Mais sauf que la nuit dernière, j'ai constaté, Caroline, la curiosité est en train d'évoluer. Parce qu'au fait, sa maman étant endormie, elle a profité retirer un smartphone et moi j'étais en train de suivre le journal, ce qui fait qu'elle m'a traversé, aller se coucher, me laissant le dos et en train de manier le smartphone. Et quand je me suis rappelé, quelques minutes après, je suis sauté, je suis venu, j'ai essayé un peu de lancer un coup d'œil, elle était en train d'effacer les appels. Donc elle manie, elle efface. Dès que ça revient, elle l'a pu toujours supprimer, ce qui fait qu'elle a pu supprimer environ 10 appels.
Mais 10 Paul, est-ce que vous avez essayé de lui prendre le téléphone des mains? Est-ce que vous avez observé ses réactions, justement, quand vous essayez de limiter l'usage de ces téléphones qu'a votre petite fille, hein, qui n'a que 2 ans?
En effet, Caroline, au début, ce n'était pas facile, parce qu'au début, dès qu'on retirait, elle pleurait. Mais maintenant, Elle sait déjà que dès qu'on constate qu'elle a ça en main, elle peut me redonner ça d'une manière simplement.
Et vous avez une question, Paul?
Oui, bon, je voulais vraiment profiter de cette occasion pour demander au docteur, qu'est-ce qui favorise vraiment à ce que mes enfants à pareil âge puissent développer leur cerveau plus facilement, plus manier facilement ces appareils, contrairement aux autres personnes plus âgées.
Comment sont-ils aussi compétents avec cette technologie?
Merci Paul, et de ce que vous racontez et de votre question. Il est vrai que les enfants, dès l'âge de 18 mois, 2 ans, comme votre petite fille, ont cette capacité, comme on le disait tout à l'heure, à effleurer, à comprendre les logiciels. N'oubliez pas que ces derniers logiciels ont été conçus de la manière qu'on appelle intuitive, de l'intuition. Or, les enfants qui n'ont pas encore le langage, qui n'ont pas, je dirais, l'armature intellectuelle que les adultes possèdent, ils sont précisément dans l'intuition. Donc ils ont une forme naturelle à suivre, je dirais, le mode de fonctionnement de ces instruments. Donc il y a chez votre petite fille un attrait. Et quand elle se réveille la nuit pour aller prendre le smartphone de sa mère et la tablette de sa mère, vous voyez bien la puissance d'attraction au point effectivement d'entraver la qualité du sommeil de cette petite enfant. Donc s'il y a des côtés intéressants et stimulant dans ces tablettes, dans ce smartphone, parce que votre petite fille, elle va vivre dans un monde où ça existe et que c'est bien de l'apprendre rapidement. En revanche, Paul, je ne saurais trop vous dire que il faut limiter cet usage de manière très précise, parce que sinon, dans 6 mois ou dans 1 an, elle va être dans une dépendance absolue. Et la fréquentation et la durée importante des écrans, ça peut avoir des retentissements, on l'a dit, des retentissements sur son attention. Dès qu'on lui enlève le portable, elle est incapable de fixer, elle risque d'être incapable de fixer son attention. Parfois des retards de langage et un enfermement relationnel avec des difficultés de relation avec les autres, comme ça a été évoqué.
Donc, professeur Marcelli, on pourrait dire, comme pour certains médicaments, comme pour certains produits domestiques, tenir hors de portée des enfants, tout simplement.
Alors, tenir hors de portée des enfants et le lui donner en présence de vous, Paul, en présence de la maman, jouer un petit peu avec, et après lui demander, raconte-moi ce que t'as vu, dis-moi ce que t'as vu, où t'as trouvé ça, et qu'elle soit capable de mettre en mots tout ce qui vient de se passer. Là, la tablette peut devenir une source d'enrichissement relationnel pour elle, et je dirais d'apprentissage technique. Sinon, ça risque d'être un objet d'enfermement et d'emprisonnement. Voilà les conseils que je vous donnerais de manière très insistante, Paul, excusez-moi. Mais votre exemple et votre situation et la situation de votre petite fille est tout à fait remarquable et est un modèle du genre.
Voilà, Paul, pour ces conseils du professeur Marcelli. Très bonne journée à vous à Yaoundé. On va maintenant prendre en ligne Valentin qui est au Tchad à N'Djamena. Bonjour Valentin.
Bonjour, docteur Catherine Paré. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Côté Santé.
Bonjour à vous. On écoute votre témoignage, votre question.
Oui, ok. En fait, moi, c'était un sujet très pertinent pour moi qui m'a beaucoup fait travailler. On a effectué des trajets. Il passe tous les 7 jours devant l'écran. Il me refuse de sortir dehors. Quand je me demande de sortir dehors, il refuse à manger. Il reste devant l'écran. Il mange. Et j'aimerais poser quelques questions au docteur, s'il peut nous répondre, cela pourra beaucoup m'aider à garantir l'éducation de mon petit. Quelle stratégie peut-on appliquer pour lui éloigner de l'écran? Ma deuxième question est de savoir, la lumière de l'écran peut-elle avoir des impacts négatifs sur ses yeux dans le futur? Et il y a une point très important qui nous tire entre moi et mon papa. Quand mon parent rentre du boulot, le petit vient auprès de lui, il lui explique ce qui se passe à l'écran. Il y avait telle série, il y avait eu des choses comme ça. Et le papa dit non, mon fils sera très intelligent à l'école. Moi je dis le contraire, je dis les idées seront bonnes.
Alors, excusez-moi, je vous interromps, Valentin, je vais essayer de résumer, hein, parce que vous parlez assez vite, on n'a pas toujours la possibilité de comprendre ce que vous dites. Je pense que vous avez dit que vous vous opposez avec votre père sur cette vision de l'écran, qui est en libre-service chez vous. Votre père, lui, pense plutôt que ça va l'éduquer, entre guillemets, mais vous vous posez des questions en disant c'est exagéré, et qu'est-ce qu'on peut faire pour un petit peu retirer cet enfant qui est tout le temps, on va dire, collé devant la télé. C'est bien cela, Valentin ?
Ouais, c'est bien ça.
Professeur Marcelli, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Valentin?
Alors, il a posé aussi une autre question sur la lumière, plus directement.
La lumière,
alors là, je répondrai sur cette
sur
question.
Les yeux.
Effectivement, ça commence à être de plus en plus démontré. D'abord, la lumière est un excitant, quand on regarde ces écrans avant d'aller se coucher, quand on éteint l'écran tout de suite, on a du mal à s'endormir. C'est valable pour les adolescents, pour les adultes, pour tout le monde.
Il y a des conseils de santé publique qui disent une heure avant de dormir, on éteint, on s'éloigne de l'écran.
Exactement. Donc là, la lumière, il y a ça, et il y a effectivement chez les tout-petits un élément supplémentaire, c'est une stimulation importante et une fatigabilité visuelle qui peut aggraver le port, enfin entraîner des ports de lunettes plus précoces, etc. Donc il y a là aussi à faire attention. Maintenant, en ce qui concerne le fait de manger avec un écran, etc., toutes ces situations sociales qui étaient naturelles, elles risquent effectivement d'être complètement bouleversées, perturbées par cet écran. Alors, il est vrai que l'écran, l'enfant se tient calme, regarde son écran, et j'ai presque envie de dire, il ouvre la bouche mécaniquement, et il avale mécaniquement. C'est plus un repas, c'est une espèce de remplissage, et il n'y a plus le plaisir du repas, le plaisir de l'échange. Moi, personnellement, je suis quand même très inquiet. Je ne saurais trop vous proposer de demander à votre papa d'écouter cette émission, de la repasser, et qu'il réfléchisse à cela, et que il y a des temps avec pour l'écran, un quart d'heure avant de manger, et puis on éteint l'écran, on raconte l'histoire en mangeant. Voilà, il a regardé une histoire un quart d'heure avant, on éteint l'écran, et en mangeant, on raconte l'histoire, et on raconte ce qui vient de se passer. Et là, ça prendra un sens dans un repas partagé. Qu'est-ce qui est agréable dans un repas? C'est de discuter entre eux, nous, d'échanger, se raconter sa journée, se raconter les histoires. C'est la relation humaine qui est importante dans le repas.
Même des fois, de faire des compliments à la personne qui a préparé à manger.
Par exemple, tout à fait. Voilà une parole féminine qui ramène. C'est un peu genre,
est-ce que vous êtes en train de dire? Non, pas du tout. Absolument. Il y a des hommes qui préparent aussi très bien à manger.
Absolument. Donc ça, et on sait par exemple que manger seul devant son écran et engloutir de la nourriture, qu'est-ce que ça entraîne? Outre la solitude, ça entraîne de l'obésité et ça entraîne des troubles. L'obésité, c'est pas par hasard aussi qu'elle survient avec tous ces problèmes. Les gens sont isolés, centrés sur eux-mêmes et engloutissent de la nourriture sans même s'en rendre compte. Donc je pense qu'il est urgent de dire tout ça à votre papa, mais faites attention. Vous vivez dans un pays où l'autorité du père s'impose et où le fils doit être respectueux face à l'autorité du père. Même si vous avez raison sur le fond, il faut que sur la forme, vous soyez très prudent et à la limite que vous en appeliez à une autorité différente,
telle c'est
que
l'autorité vous, cette autorité
de Radio France Internationale et de cette émission.
Du professeur Marcelli, qui est un psychiatre reconnu et qui vous dit que l'enfant qui mange et qui passe sa journée devant la télévision, surtout à ce jeune âge de 3 ans, ce n'est pas bon tout simplement pour lui, tout simplement. Voilà, merci beaucoup Valentin, excellente journée pour vous à N'Djamena. On va prendre un dernier auditeur tout de suite, c'est Narson qui est en ligne de Pointe-Noire au Congo. Bonjour Narson.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute Narson.
Oui, bonjour aussi professeur. En fait, j'ai un souci. Oui, j'ai un souci avec mon enfant à la maison. Il y a, bon, disons, lorsqu'il avait un an, il regardait la télé. Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte que l'enfant est devenu tellement accro à la télé. Bon, actuellement, il a 4 ans. Et nous qui sommes ses parents, je pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui éloigner de la télé? Figurez-vous, parfois, il est un peu limité. Et puis, je passe à la télé. Déjà, il s'est déjà fracturé le bras en imitant ce qui se passe à la télé. Bon, j'ai bien peur pour cette erreur de développement. C'est pas, il va rester à la maison. Et j'ai très peur pour cet enfant, comme il est captif, il capte beaucoup de choses en un rien du temps. Et puis moi et sa maman, on se pose des questions, bon, comment faut-il faire? Et quand j'ai vu que ça peut apporter des conséquences graves sur la vie de l'enfant, et puis voilà pourquoi je me suis dit, bon, pourquoi pas vous poser la question de savoir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre, moi et sa maman, pour lui éloigner de la télé.
Moi, j'ai une question, Narson. Est-ce que vous proposez des jeux à votre enfant ou est-ce que il peut avoir des petits camarades qui viennent à la maison tout simplement pour jouer avec lui? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites?
Oui, au niveau de l'école, il s'amuse avec ses collègues. Lorsque sa maman part le chercher à l'école, on lui rapporte tout un tas de choses. Bon, oui, il fait ceci. Bon, c'est là où nous sommes rendus compte qu'il y a des choses qui regardent à la télé, parfois sur nos téléphones. Et lorsqu'on lui ramène même la télécommande, il se met à crier, il se met à rouler au sol, parfois même le manger, pour lui c'est vraiment difficile, c'est la télé.
Professeur Marcelli.
Oui, oui, ce que vous dites, c'est très important. Vous avez un enfant de 4 ans qui est de plus en plus accro à la télé, vous le décrivez bien, avec des crises de colère quand on supprime la télé, et il se roule par terre. Alors, il n'y a pas 36 solutions, Narson. Il y a l'exigence rapide et très importante d'arrêter la télévision. Supprimer la télévision, mettez un tissu, une couverture sur la télévision, et n'ouvrez la télévision que pendant un temps très précis. Bon, qu'en rentrant de l'école ou même pas tout de suite, à un certain moment, il regarde pendant une demi-heure un dessin animé ou quelque chose où, que vous lui proposez. Bon, ça, d'accord. Mais le reste du temps, la télé est fermée et est éteinte. Alors, vous allez traverser une période extrêmement difficile. Une période qui va durer une semaine, deux semaines, rarement plus. Où, évidemment, votre enfant va protester. Il va râler, il va crier, il va hurler, il va être dans l'opposition pour, évidemment, obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire à nouveau sa télévision. Si vous cédez, évidemment qu'il va comprendre que, c'est comme ça, c'est lui qui a gagné. Donc il faut tenir. Alors aménagez ça pendant ces 15 jours, faites venir vos grands-parents, vos parents, ses grands-parents, faites venir d'autres personnes, faites venir des amis pour que cette temps difficile se mettre en place. Et après, c'est un contrôle très rigoureux, et à cet âge-là, une demi-heure, une heure de télévision maximum, c'est bien.
Ça veut dire aussi éteindre la télé en bruit de fond permanent dans la maison.
Ça
aussi
veut dire, effectivement, en tant qu'adulte, être aussi capable de se frustrer de ça, et parce que c'est un service que vous rendez à votre petit enfant. Et surtout, évidemment, pas au moment de se coucher, 21h. Là, après, il va avoir des problèmes de sommeil et des problèmes d'endormissement. Et votre remarque est intéressante parce que ça prouve aussi que la télé, c'est exactement comme les smartphones, simplement la télé, on l'emporte pas avec soi dans la poussette, donc il y a du coup un temps de frustration imposée, et ça rend bien compte de l'effet nocif de tous ces petits écrans nomades. Donc votre exemple est très intéressant par la colère que votre enfant déploie quand on le lui arrête, et par la difficulté des parents à tenir cette phase de protestation. Mais tenez bon, arrêtez et mettez des temps très limités. Voilà ce que je peux vous dire.
Narson, reprenez le pouvoir avec gentillesse, mais avec fermeté. Très bonne journée chez vous à Pointe-Noire, au Congo. Professeur Marcelli, on a décrit ces symptômes, hein, ces comportements liés à la surexposition des plus jeunes aux écrans. Est-ce qu'on peut pour autant parler d'une pathologie ?
Ben, l'exemple montre, et la clinique semble montrer, que quand on laisse l'enfant s'installer durablement, au-delà de, on va dire, 4-5 ans, quand on arrête les écrans, il y a des comportements, des manifestations symptomatiques qui risquent de durer et qui s'installent de manière prolongée. Quand dans le développement de l'enfant, il y a ce qu'on appelle des fenêtres sensibles. Une des fenêtres sensibles dans le développement de l'enfant, c'est entre 6-8 mois et 2 ans, qui est la qualité des relations synchronisées dont j'ai parlé tout à l'heure. Et si cette fenêtre sensible est altérée, est modifiée, eh bien, ça va devenir de plus en plus difficile pour l'enfant, comme le disait l'enseignant, de comprendre la relation, de comprendre le tour de parole, de comprendre la capacité d'échange, etc. Et l'enfant ne se sentant mal à l'aise, il risque de plus en plus soit de se replier sur lui-même, soit, comme on dit, comme le disent certains, d'être agressif, etc., etc. Donc, de ne pas savoir réguler les relations avec les autres, et ça peut être un handicap très important, outre les troubles de l'attention qui peuvent devenir durables et les troubles du langage. Je crois vraiment, et je pense, j'insiste là-dessus, que les écrans chez le tout petit sont ce qu'on appelle un perturbateur environnemental. C'est vraiment quelque chose qui est un perturbateur. On parle des pesticides, on parle des différents produits, mais l'écran, je pense, provoque des dégâts développementaux, enfin susceptibles de provoquer des dégâts développementaux, comme un perturbateur environnemental qu'on décrit ailleurs. Donc c'est très important que les parents en aient conscience. Il ne faut pas diaboliser les écrans, mais il faut qu'ils aient conscience de ça chez le tout petit.
Alors on va partir tout de suite pour le Sénégal, professeur Daniel Marcelli.
Priorité santé sur RFI.
Et en ligne avec nous le professeur Lamine Fall. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Fann à Dakar. Est-ce que ce phénomène, professeur Fall, de surexposition aux écrans, c'est également quelque chose que vous constatez au Sénégal ?
oui, tout à fait. C'est de plus en plus effectivement constaté dans nos consultations, en tout cas même dans la région, même dans nos propres foyers. Effectivement, il y a de plus en plus d'écrans, et effectivement, de la télé, des ordinateurs, il y a surtout les portables, effectivement, qui pullulent, il y a de toutes les qualités, de tous les prix. Aujourd'hui, donc, dans notre pays, même les enfants, les petits-enfants en ont parfois pour eux-mêmes. Donc, parce que les parents, de plus en plus, ne sont pas tout à fait disponibles et voulaient avoir un certain contrôle sur vos enfants. Donc, pour pouvoir les appeler ou se faire appeler, malheureusement, ces portables ont des écrans et parfois sont connectés. Et ça pose effectivement d'autres problèmes.
Alors, justement, ces problèmes, quel type de troubles est-ce que vous avez constaté, professeur Lamine Fall?
Oui, le plus gros, c'est les troubles d'attention et même, je dirais, l'hyperactivité. Donc, c'est des enfants, je pense, quand les parents leur donnent les écrans parfois, c'est pour les calmer. Ce qu'ils nous disent, hein. Donc, ils ont l'impression quelquefois que, voilà, les enfants sont moins sur eux et plus posés quand ils leur donnent les écrans. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils n'ont plus les écrans, là, ils ne s'arrêtent plus, ils courent dans tous les sens et en plus, ils ont de gros problèmes d'attention, aussi bien à la maison qu'à l'école. Donc, ils sont quasiment étourdis. Donc, ça, c'est ce qu'on constate aussi bien dans la vie courante que dans les consultations. Quelquefois, quand les enfants nous arrivent pour des problèmes de scolarité, des problèmes d'écriture, donc c'est aussi des conséquences sur la psychomotricité, notamment la motricité globale et même la motricité fine. Donc là, nous constatons rapidement, parfois ils arrivent avec le téléphone ou la tablette dans les bras, donc quand ils rentrent dans la consultation, nous sommes obligés de leur demander d'arrêter ça.
Donc, ça veut dire que les parents viennent pour des troubles, mais eux, quand ils arrivent, ils n'ont pas forcément conscience que ce qui est en cause, c'est l'écran.
Exactement. Exactement. Très souvent, ils n'ont pas conscience de l'effet de ce facteur-là lié aux écrans. Et nous devons attirer leur attention sur cela. Et quelquefois, c'est effectivement plus dramatique et plus criard. Donc, certains parents ont vraiment constaté, ont essayé, mais de façon parfois, notamment pour les adolescents qui ne dorment pas la nuit, qui passent toute la nuit accrochés à leur téléphone parce qu'il y a l'internet à la maison. Donc, quelquefois, ouais. c'est des bagarres avec les parents par rapport à l'arrêt de cet internet.
Professeur Daniel Marcelli veut réagir, je vous
écoute. Oui, merci, cher collègue. Je suis content de vous entendre. Et ce que vous dites, effectivement, est fondamental. Et je crois, puisqu'on est entre deux pédopsychiatres, je crois que quelque chose de très intéressant, c'est de voir combien ces enfants sont immobiles et figés lorsqu'ils sont devant des écrans, et combien ils bougent, ils remuent dans tous les sens, ils sont hyperactifs et incapables de concentrer leur attention lorsqu'ils ne sont pas devant les écrans. Et donc, ça montre bien que l'attention est quelque chose qui se construit progressivement. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Une question que j'aimerais vous poser, puisque vous êtes donc au Sénégal, est-ce que cette toxicité des écrans, elle commence à être perçue dans les familles, dans les couches aisées de la population, et qu'on retire un peu les écrans, ou est-ce qu'au fond, dans ces couches aisées, on donne un peu trop d'écran aux enfants, avec l'idée que ça va les faire progresser et leur apprendre de l'anglais ou d'autres langues étrangères? Parce que c'est un des problèmes majeurs que nous rencontrons également ici en France.
Votre réponse, professeur Fall.
Tout à fait. Je crois qu'effectivement, certains parents s'en rendent compte bien tardivement. Donc, très peu de parents, effectivement, sont tout à fait informés, même dans les couches les plus favorisées au niveau social.
Là, je crois que vous avez vraiment un travail de santé publique à développer, et c'est très, très important.
Tout à fait. Parce que certains parents, même quand on les a informés, ont résisté pendant un temps, et c'est seulement lorsqu'ils ont essayé, parce que nous tenons parfois des réunions avec les parents que nous suivons, notamment dans notre étape de jour, et certains parents ont pu témoigner quelquefois devant les autres qu'effectivement ils avaient résisté auparavant, qu'on leur avait dit la toxicité de ces écrans, et qu'ils ont vraiment constaté les effets,
tout à fait.
Qu'ils ont pu mieux contrôler.
Ça, c'est très important ce que vous êtes en train de dire, et puis les groupes de parents dans ce niveau-là, c'est très important, et la capacité de soutenir les parents pour qu'ils résistent à la pression et à l'exigence de l'enfant.
Professeur Lamine Fall, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Fann à Dakar. Le temps Ça passe vite, hein. Merci beaucoup, professeur Daniel Marcelli, surtout avec quelqu'un comme vous, parce que vous êtes encore plus bavard que moi, je vais vous remettre un prix. Merci de vous avoir apporté votre éclairage, cette question très intéressante des écrans. On y reviendra, bien sûr, dans Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, président de la Société française de psychiatrie, toujours pour l'enfant et l'adolescent. On peut citer un ouvrage, hein, que vous aviez signé aux éditions Albin Michel. Avoir la rage du besoin de créer à l'envie de détruire. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. On parle maintenant des bienfaits du sport et de l'activité physique sur la santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux femmes rondes qui parfois n'osent peut-être pas se mettre au sport. Et pourtant, docteur Sen, eh bien, faire du sport, ce n'est pas qu'une perte en calories.
Et oui, Caroline, c'est aussi se réconcilier avec son corps. Alors, c'est vrai, il faut essayer de commencer en douceur et essayer une façon aussi de renouer le contact avec son corps. D'être à l'écoute, par exemple, savoir écouter sa respiration, apprendre à se relaxer, s'étirer, se renforcer ses muscles, s'assouplir. En fait, c'est une véritable découverte de son corps, de sa posture, de sa respiration. Et là, on rentre dans une véritable démarche profonde d'affirmation de soi. Et donc là, on rétablit un certain équilibre intérieur, à la fois physique et psychologique. Le voilà, le véritable intérêt de l'activité physique, c'est le fait de contrôler son corps et d'éviter par là même les dérapages alimentaires qui sont souvent renforcés par la pratique de régime.
Alors on l'a bien compris, docteur Jean-Marc Sen, quand on a des formes, pas question d'arrêter de bouger. Alors justement, quel sport peut-on faire facilement dans ces cas-là?
Eh bien, évidemment, faire du sport pour les femmes rondes, c'est possible. On peut faire par exemple la natation, hein, tout simplement parce que lorsque l'on est immergé dans l'eau, eh bien, le corps ne pèse quasiment plus rien. Les mouvements sont plus fluides et puis ça permet de travailler son souffle, son rythme cardiaque. La marche à pied aussi est intéressante parce que c'est l'activité la moins chère du monde, hein. Elle est extrêmement efficace. Il suffit d'avoir une bonne paire de baskets. Tout peut être prétexte pour marcher. Allez, on va promener son chien, on va aller chercher son pain, monter les escaliers, tout cela est tout à fait faisable et une demi-heure par jour suffit à bien entretenir sa santé. Le vélo ou le vélo elliptique, eh bien là, tout est basé sur le même principe, il s'agit de pédaler. Et là, pédaler, c'est bon pour les cuisses, hein. Ça chauffe, ça étire les muscles et en quelques minutes, eh bien, on a tout de suite quelque chose d'efficace.
Alors, la natation, la marche, le vélo, certaines n'aiment pas forcément ces sports. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là?
Bah, à ce moment-là, on peut faire, par exemple, la danse orientale, hein, la danse africaine, la danse du ventre, pourquoi pas la salsa. Eh bien, tout cela, du moment qu'on prend du plaisir, c'est tout à fait positif. Et puis, ça développe une certaine sensualité, ce qui ne gâche rien. Et c'est une activité qui est souvent en groupe, où les formes, d'ailleurs, sont bien acceptées. À noter qu'il faut souvent avoir une bonne aptitude cardio-respiratoire dès le départ. Et puis on peut faire d'autres choses, hein, jonglage, pourquoi pas nunchaku, hein, vous savez, ça développe la coordination, les réflexes, l'équilibre. On peut faire ça quasiment partout ou presque. Hein. Attention au nunchaku dans les transports en commun, ça peut être dangereux. Et puis pas hésiter au tennis de table aussi, qui est très amusant, ça développe, et ça quel que soit l'âge, ça développe la coordination, l'endurance, l'équilibre, les réflexes. Hein. On voit pas quand on fait un effort et le cœur peut battre très vite et pourtant on veut absolument rattraper cette balle. Alors j'espère que par ces quelques conseils, toutes nos auditrices qui ont des formes pourront pratiquer leur sport favori sans fin.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. On vous retrouve très prochainement dans Priorité Santé. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, prépare et réalise votre émission. Assez tous à maquiller, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Demain, comme jusqu'à la fin du mois d'août, nous poursuivons notre cycle de rediffusion et vous pourrez réentendre l'émission consacrée à trois maladies liées à un même virus, varicelle, herpès et zona. Restez à l'écoute de RFI et surtout portez-vous bien, lavez-vous bien les mains et pensez au masque dans les lieux fermés et en cas de forte affluence.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.